baissons la tête devant ta Seigneurie, devant ta souveraineté. Et nous voulons, Seigneur, que toi seul nous parles à travers ce message. Nous avons besoin d'entendre cette voix qui vient de toi, qui ne vient pas des hommes, pour nous rassurer par rapport au combat que nous menons dans notre propre vie, mais dans l'environnement aussi que tu nous as établi. Nous prions que tu nous aides et que tu prennes le contrôle de ces instants par ton esprit. Nous te prions de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons réfléchir sur tout un thème illuminé d'en haut pour éclairer les autres. Un défi pour une église qui se veut romante. Nous sommes presque au dernier trimestre de l'année 2017. Et l'indispensable qu'on se rappelle encore ce qu'implique notre vision de 5 ans, de 6 ans. Selon notre plan stratégique. Trois passages ont été lus, mais je vais lire quelques versets dans Philippiens chapitre 2, juste le verset 14 et 15. Agissez en tout sans murmure, ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfin de Dieu sans tâche au milieu d'une génération dévoyée et pervertie. Vous vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. Amen. Je voudrais aborder ce thème sous trois points importants. Le premier point, c'est que je voudrais donner une petite précision sur le thème lui-même, parce qu'il y a là des participes passés du verbe illuminer. Or, il y a plusieurs illuminés que nous connaissons autour de nous. En deuxième lieu, je veux que nous disions ce que la Bible dit sur les illuminés. Et je terminerai par une application de ce que nous aurons à dire. Les textes sur lesquels se cristallise notre méditation ce matin est tiré de ces trois passages dont nous venons tous de faire la lecture. Le thème lui-même est tout à fait provocant. Parce qu'on s'est posé la question de savoir si nous pouvons nous prétendre être des illuminés. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il est possible que nous, tous enfants de Dieu, nous puissions nous aussi dire que nous avons été illuminés? Aujourd'hui, on parle de plus en plus. C'est ça la pression que je voulais donner des Illuminati. Vous avez déjà entendu parler. Et c'est une organisation dont on parle beaucoup. Mais qui sont-ils? En fait, c'est une organisation des Illuminés. Parce que illuminé vient du latin illuminare, qui signifie éclairer, ou qui signifie connaître. C'est une organisation qui date. En tout cas, vers la fin du 18e siècle, nous sommes en 1776. L'ordre en question a été fondé, pas vraiment par quelqu'un qui n'est pas de l'Église, mais en tout cas un père jésuite, un certain Adam Wissop, qui s'inscrit dans la mission, et cette mission était d'anéantir le pouvoir des régimes monarchiques qui, selon lui, entravaient le progrès des sociétés, ou alors, et surtout, des idées. Alors, lorsqu'ils commencent ces mouvements, ils disent ceci. Ils disent qu'ils sont rendus compte que le peuple est, par nature, ignorant. En tout cas, plongé dans une situation où il faut que d'autres les conduisent. Ils sont stupides, ils sont ignorants, et ils sont potentiellement violents. Alors, il faut une élite éclairée, une élite illuminée, pour conduire le peuple qui souffre d'ignorance et qui souffre de la stupidité. Et pour le faire, il fallait imaginer ce qu'on appelle la démocratie politique. Il faut
que le gouvernant soit choisi parmi les élites, une élite éclairée. Au début, ils avaient commencé comme un mouvement subversif, c'est-à-dire les gens faisaient des révoltes pour s'imposer. Mais à un moment donné, ils ont commencé au fil du temps à dominer de façon implacable dans le but de perpétuer le pouvoir sur la population. Il faut les dominer pour rester le plus longtemps possible. La création de l'organisation en soi marquait le lancement d'un système qui a été conçu pour contrôler les systèmes financiers des nations. Vous voyez comment le dollar domine le monde, n'est-ce pas? Au point que les Congolais, dominés par le dollar, n'est pas en mesure d'aimer son franc congolais parce qu'il est chancelant. Au moins, le dollar est comment? Il est stable. Alors, le mouvement a été conçu comme un flambeau, en tout cas un flambeau qui devait se transmettre de génération en génération, et il fallait créer une élite héréditaire. Ceux qui ont commencé ont formé autour, derrière eux, ils ont laissé leurs enfants qui devaient continuer dans cette élite héréditaire. C'est pourquoi on s'est rendu compte qu'il y a eu Bush. Il y a eu combien de Bush aux États-Unis? La fois passée, on a risqué d'avoir un troisième, n'est-ce pas? On a risqué d'avoir un troisième. Il y a eu les Russes aussi, il y a eu aussi les familles royales européennes qui sont entrées dans ce mouvement des initiés, qui, lorsqu'il y a des changements sur le plan technologique ou sur le plan social et sur le plan économique, ils cherchent à s'adapter pourvu qu'ils maintiennent une certaine hégémonie dans la gestion des nations. La particularité de cette organisation par rapport aux autres, ces illuminés-là, c'est que ce n'est pas un clair de réflexion, encore moins un réseau d'influence, mais c'est surtout un groupe des initiés qui initie les autres à pouvoir adhérer, et pour adhérer, on nous initie à des pratiques orientales, des religions orientales, où on adore des dieux ou des déesses du monde oriental pour que vous puissiez savoir comment vous tenir, vous comporter pour avoir une influence sur les personnes auxquelles vous êtes adressés. C'est ainsi que certains dirigeants politiques et certains dirigeants économiques faisant partie de ces mouvements des Illuminati ne peuvent rien d'autre que recourir à l'occultisme. Donc ce qui caractérise ces mouvements, ils sont occultistes. Ils sont en tout cas fondés sur des pratiques qui les entraînent à influencer ou à rester, à se maintenir par des forces occultes parce qu'ils adorent des faux dieux. Ils ne sont pas très nombreux parce que c'est un groupe, c'est une élite. Alors il faut sélectionner des personnes qui seront en mesure de vous servir et de passer à travers ces gens pour continuer à assujettir non seulement les gouvernements, mais aussi les multinationales. Ce mouvement est en train de gagner du terrain. Deux filles étaient parties chercher du travail. Et quand on cherche du travail, on cherche partout, n'est-ce pas? Et on vous pose des conditions pour avoir ce travail-là. Étant donné que la personne qui devait les engager faisait partie du groupe des illuminés, il est éclairé, il connaît, il peut découvrir ce que vous êtes. On a dit à l'une des filles, à ces deux filles qui étaient dans leur période menstruelle, que si vous nous donnez ce que vous avez là, c'est possible de vous donner un travail. Alors ils ont dit, mais nous avons quoi? Non, entrez seulement dans une chambre ici, si vous nous donnez ce que vous avez là, nous allons vous donner du travail. La première est entrée. Elle n'a pas donné ce qu'elle a. C'est qu'on lui a demandé. Elle est sortie. La deuxième est entrée. Elle a donné ce qu'on lui a demandé. Et elle est sortie avec la clé de contact d'un véhicule. Elle était engagée. Malheureusement, elle a commencé à travailler et quelques temps après, on a constaté qu'elle avait complètement changé. Elle avait beaucoup d'argent, c'est vrai. Elle avait une position, c'est vrai. Mais la manière dont elle s'est comportée, on sentait que c'est une personne qui est anxieuse tout le temps, compte tenu peut-être des choses qu'on lui a dites, ou alors des conditions qu'on lui a fixées pour se maintenir à cette position. Alors, qu'est-ce que la Bible sur les illuminés? Je pense que nous ne sommes pas des illuminés de ce genre que je viens de parler. Lorsque nous avons lu Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15, vous êtes rendu compte que dans ce passage, il est dit que vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde. C'est la fin du verset 15. Dans une autre version, on dit « Faites tout sans maugréer ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au lieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme des lumières du monde, portant la parole de vie. » Paul parle des enfants de Dieu appelé à servir comme des lumières du monde. Pas comme des illuminés éclairés ou alors soutenus par des forces occultes, mais en tout cas éclairés par quoi? Par la parole de vie. Alléluia. Éclairés par la parole de vie, ils deviendront source de vie parce qu'en fait, ils sont lumière du monde. L'exhortation que Paul fait, c'est ça conduit les croyants à porter cette parole de vie. Non seulement pour devenir source de lumière, mais aussi pour maintenir cette lumière de Dieu dans le monde plongé dans les ténèbres. Alors pour y arriver, il insiste sur le vivre ensemble, les deux croyants. Ou alors les croyants comme une congrégation comme la nôtre qui vivent ensemble doivent faire attention à des murmures. Ils doivent faire attention à des discussions inutiles, vaines, comme le dit souvent la parole de Dieu. Ils doivent plutôt avoir une attitude positive qui leur permet de vivre les uns les autres dans la patience qui va permettre de vaincre le mal en faisant le bien. En fait, c'est ça qui va leur donner la force de continuer à tenir dans un monde plongé dans la confusion, vaincre le mal en faisant le bien. C'est à ce titre-là que le monde pourra se rendre compte de la lumière qu'il porte, qui est transmise par la parole de vie et qui pourra leur permettre de devenir irréprochable et pur dans un monde plongé dans la confusion, perverti et corrompu. Ils doivent briller comme des lumières, ou alors comme des luminaires. Les croyants se tiennent aussi, on pourrait le dire, comme des étoiles. Mais comme on est dans une période de ténèbres, on sort, on se rend compte qu'il y a des étoiles, ou il y a la lune. Les étoiles se tiennent dans le ciel, en tout cas comme des luminaires placés dans la voûte céleste, qui permet non seulement de séparer le jour et la nuit, comme l'a dit Genèse chapitre 1, verset 14 à 15, mais aussi pour éclairer la terre. Donc, quand bien même il y aurait des ténèbres, quand bien même les ténèbres seraient épaisses, il suffit qu'il y ait la présence au moins d'un seul qui va éclairer et ça va aider à garder une certaine lumière dans l'environnement où les croyants se retrouvent. En fait, Paul ici, dans Philippiens chapitre 2, ne reprend à sa manière que ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, où on a parlé des croyants comme le sel de la terre, mais aussi comme lumière du monde. Pourquoi il parle du sel de la terre dans Matthieu chapitre 5 que nous avons lu? Je ne passerai pas beaucoup de temps par rapport à ces deux métaphores, mais je vais dire ceci. Je vais dire comme le ciel contient une énergie puissante pour s'imposer dans les aliments et produire ou procurer un certain goût aux aliments, il va falloir que le chrétien ait en lui cette énergie puissante qui ne vient pas de lui, mais qui vient de qui? qui vient de cette relation qu'il a entretenue avec le Christ, mais aussi cette parole de vie. Alléluia. C'est en le faisant, non en recourant aux forces occultes, c'est en le faisant, en recourant à cette parole de vie, qu'il obtient du Seigneur les lettres de noblesse pour représenter le Christ sur la terre qui a vieilli et qui, au fur et à mesure, est complètement en train de se désintégrer assez facilement à cause du péché de l'homme. Je ne sais pas si vous avez suivi au cours des semaines passées ce qui s'est passé, ce qui s'est fait en Californie, dans beaucoup de pays, hein, où il y a eu des incendies qui ont tout ravagé. Vous avez vu ça à la télé. On se rend compte que le monde est vraiment vieilli. Au point que les pays qui étaient prospères se retrouvent face à des situations qu'ils auraient pu maîtriser par la technologie, mais malheureusement, ils ne sont pas en mesure de les maîtriser. Plus il y a des églises dont les membres sont conscients de leur mission de redonner l'espoir autour d'eux, il y aura davantage des hommes et des femmes qui vont s'accrocher à Dieu, même si les choses ne marchent pas. Alléluia. C'est ça notre rôle. C'est-à-dire que quand Dieu même, il n'y a plus de raison d'espérer, trouver quand même une lumière dans quelqu'un qui continue à dire que Dieu reste Dieu, Dieu va nous conduire à bon port. Face à la décomposition de la terre, de la manière dont notre monde est en train d'être, même notre monde de la RDC où nous vivons, il faut qu'il y ait encore quelques luminaires, quelques hommes, quelques femmes, quelques garçons et quelques filles qui vont encore oser éclairer ce monde. Le monde a encore besoin de la présence des hommes qui aiment Dieu, ça c'est vrai, mais aussi qui aiment la terre. La terre que Dieu leur a donnée. Il peut nous arriver d'aimer Dieu sans aimer la terre que Dieu nous a donnée. C'est possible. On peut qu'on peut la laisser aux autres et la prendre, on dit bon, pourvu qu'on aille au ciel. Pourtant, Dieu nous l'a donné pour y vivre, mais aussi pour la gérer et la protéger. Alléluia. Lorsque Paul Matthieu parle de sel, il fait référence au sel de la Palestine antique, qui contenait des mélanges, des cristaux qui étaient des mélanges, et qui étaient souvent exposés à l'humidité. Et lorsque le chlorure de sodium fondait, il y avait des parties salantes qui étaient en train, qui restaient. Et ces parties salantes, on ne peut plus les appeler celles, ils ont tellement perdu la saveur. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, on dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire, plus on laisse notre foi exposée à des mélanges, à des pratiques, même occultistes, à des pratiques païennes, à des pratiques dans lesquels les gens se sentent à l'aise, pourtant ils exposent leur propre foi, ils sont, au fil du temps, en train de perdre leur saveur. Ils ne vont plus servir à quelque chose. Parce que le sel qui a perdu sa saveur ne va plus servir à rien du tout. En quoi notre présence va se justifier dans un environnement où Dieu nous a établis, si nous ne comprenons pas la mission que Dieu nous a donnée. Il y a un cantique d'avoir l'habitude de chanter. Zambé Sala, c'est ça? Zambé Sala. C'est une manière de dire à Dieu de travailler, n'est-ce pas? Et nous, on ne fait rien. Seigneur, travaille. Travaille comme tu l'entends, n'est-ce pas? C'est vrai, il peut travailler comme il l'entend, mais il ne nous demande pas moins de faire quoi? De travailler. Demande pas moins de travailler, de faire transpirer notre intelligence pour nous dire comment pouvons-nous faire face à une situation aussi compliquée comme celle-ci. Il n'est pas question de laisser les choses courir en attendant les mains croisées l'intervention de Dieu. J'étais au Kenya en décembre passé et j'ai été visité par une dame qui travaille, enfin j'ai été invité par une dame qui travaille dans une organisation au Niger, au Cameroun. Il est dans la même église que mon fils. Alors j'étais en train de discuter sur la situation du Congo, du Cameroun. Et moi, je lui ai posé la question, pourquoi vous les Camerounais, vous avez laissé Paul Biya rester au pouvoir tous ces temps? Elle a répondu en disant, nous attendons l'intervention des Dieu. Ça m'a fait réfléchir, je me dis, il est aussi possible que nous attendons l'intervention de Dieu. Ce qui n'est pas faux. Mais attendre l'intervention de Dieu ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire quelque chose. À notre niveau. Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour que la terre que Dieu nous a donnée ne nous échappe? Lumière du monde. Alors quand Jésus dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, il fait référence à Isaïe 49, verset 6, où il est dit, je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La mission ici est claire. On est lumière pour gagner les autres et que le salut aille au-delà des frontières jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous sommes souvent conscients que le salut doit aller au-delà de nous-mêmes? Qu'il faut aller plus loin, étendre les rayons géographiques, aller au-delà pour chercher d'autres, parfois qui ne sont pas les nôtres, pour les amener, parce que jusqu'au sommet de la terre, le salut doit parvenir. Est-ce que nous sommes conscients que notre présence à chaque lieu est aussi un moyen que Dieu utilise pour évangéliser. Parce qu'on n'est pas lumière pour soi-même, on l'est aussi pour les autres, pour éclairer les autres. Si vous prenez une bougie et vous la mettez dans une salle plongée dans les ténèbres, il y aura quoi? Il y aura la lumière. Vous avez une lampe torche, vous sortez pour aller dehors, il y a quoi? Il y a la lumière, vous verrez par où passer. Vous prenez un projecteur, ou alors il n'y a pas de courant, mais le projecteur s'allume, il y aura de la lumière sur toute l'avenue qui va éclairer toute l'avenue. Un tout petit peu de lumière peut donner un certain espoir. Un tout petit de lumière peut donner un certain espoir. C'est ça que le Seigneur veut. Il aurait souhaité, quand il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » dans Jean chapitre 8, verset 12. Il est en train de souhaiter ici que nous comprenions que Jésus est le seul capable de nous procurer la vie authentique. C'est ça la lumière, la vie authentique. La vie telle qu'il convient de la vivre, dont la qualité incontestable est incontestable, au point de faire de chacun de nous un luminaire qui va éclairer dans sa famille, dans son environnement social et dans sa profession. Pourquoi venons-nous à l'église chaque dimanche? Nous venons pourquoi? Pour apprendre, n'est-ce pas? Comment vivre pendant la semaine, n'est-ce pas? Et si nous venons chaque dimanche pour apprendre comment nous allons vivre pendant la semaine, nous avons besoin d'énergie que Dieu nous donne en écoutant la parole de Dieu. Pour éclairer dans nos maisons. Si nous sommes des enfants, nous éclairons nos parents. Si nous sommes des maris, nous allons éclairer nos femmes. Si nous sommes des femmes, nous allons éclairer qui? Nos maris. Et si nous sommes des jeunes garçons et filles, nous devons éclairer nos parents. Et donc, chacun dans son milieu de vie, c'est là qu'on va se rendre compte, est-ce qu'il a été à l'église ou il n'a pas été à l'église. Il y en a malheureusement qui deviennent pires. Au fur et à mesure qu'ils vont à l'église, au lieu de changer, ils deviennent pires. On peut même dire, mais on aurait même pu te demander de ne plus aller à l'église. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne changent pas. Et ça, c'est un drame. C'est ainsi que le rayonnement de Goma Ouest ne viendra pas du ciel. Non. Si nous voulons une église qui rayonne, c'est chacun de nous qui est responsable de ce rayonnement. Alléluia. Chacun de nous doit être responsable de ces rayonnements. Où que tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, quels que soient les amis ou les frères que tu côtoies, tu es une source de lumière pour ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Quand je suis arrivé aux études à Kinshasa, j'avais trouvé une église où les membres étaient en train de rayonner dans toute la ville de Kinshasa. C'était l'église à la borne. Et je me suis posé la question, d'où est-ce qu'il détenait cette énergie-là. J'ai essayé d'approcher cette église, j'ai commencé à y aller, et je me suis rendu compte qu'ils étaient trop attachés aux prédications qu'ils suivaient, des manières qu'ils les mettaient en pratique. C'est une chose qu'ils écoutaient, ça n'est une autre que de mettre en pratique. Alors, comme la lumière, comme les sels s'imposent, la lumière aussi va s'imposer. Là où il y a les ténèbres, persistent toujours les forces d'asservissement, d'oppression, des malheurs qu'infligent les forces du mal. Si on regarde notre pays aujourd'hui, on ne peut que se dire que les forces des ténèbres dominent sur les forces de la lumière. Pourquoi je le dis? Il y a des guerres qui ne finissent pas. Il y a des kidnappings qui nous font trop mal. J'ai lu un message hier qui disait qu'aujourd'hui on ne kidnappe plus les gens en utilisant les motos. Maintenant on utilise les bus. Et je dois attirer votre attention. Vous trouverez un bus, on vous dit, vous allez en dessous, vous dites oui. Il semble qu'il ne faut plus monter dans les bus. Il faut d'abord voir si ce bus est un bus de transport commun. Vous y montez, on vous prend, et une heure après, on va appeler votre famille pour demander 5 000 ou 10 000 dollars. Ils se sont rendus compte que les transports communs, les gens, presque tout le monde les prend. Et donc, c'est les moyens qu'on utilise aujourd'hui pour savoir, pour prendre les gens. Il faut être sûr que c'est un bus de transport commun. Il y a la pauvreté qui nous talonne. Il y a les maladies qui font beaucoup de victimes autour de nous, alors qu'elles ont été éradiquées sous d'autres cieux, comme la malaria. Vous allez ailleurs, vous ne trouverez pas ça. Comme le choléra, la fièvre typhoïde. Il y a les manques d'eau et d'électricité, c'est devenu courant. Il y en a même parmi vous qui payent, nous payons même les factures pour les courants qui ne viennent jamais. Parce qu'on a pitié du gouvernement. Ça, c'est grave. Bon, si je ne peux pas, il faut que je vienne. Mais ils ont coupé depuis longtemps. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Pourtant, le pays est gorgé des fleuves, des lacs, des rivières. Mais tout ce que cela vient, c'est parce que nous sommes gérés par des hommes et des puissants. Nous avons laissé la République être gérée par des hommes et des femmes sans foi ni loi. Nous avons laissé l'armée aux gens qui n'ont pas les graines de Dieu et nous n'envoyons pas nos enfants en disant que nous devons les protéger contre le mal. N'est-ce pas? Nous avons laissé les parquets, les cours et les tribunaux aux païens et nous disons même si nous avons une licence en droit, on ne peut pas aller là-bas, vraiment, c'est corrompu là-bas. Parce que nous avons peur que nous puissions perdre notre foi. Mais une foi qui n'est pas mise à l'épreuve, elle n'a pas raison d'être forte. Pendant ce temps, nous pleurons, n'est-ce pas? Mais nous allons pleurer jusqu'à quand? Bien-aimés, au lieu de pleurer, nous devrions nous battre pour que les choses changent. Mais ça ne changera pas. Il faut que ça commence par nous. Il faut que chacun de nous prenne conscience qu'il est en mesure de porter un petit changement. Et quand nous serons 10, nous serons 20, nous serons 30, nous serons 50, nous allons avoir au fur et à mesure quoi? De l'impact. Il faut que chacun de nous prenne la résolution de changer. Les hommes politiques, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, nous devons les interpeller. Parce qu'ils doivent cesser de travailler pour leur ventre et travailler pour l'intérêt général de toute la nation. C'est ça que nous attendons. Les hommes politiques. Il faut que tous comprennent que s'ils sont placés quelque part, c'est pour notre intérêt, nos populations, et non leur intérêt. Et s'il y en a qui ne le font pas, l'histoire va les juger. Comment faire pour rayonner notre adhésion à Christ et notre Église? Deux petites choses. La première chose, je l'ai déjà dit, Si nous voulons garder notre saveur et la lumière qui est en nous, nous devons savoir que nous sommes invités à éclairer les autres. Quel que soit l'environnement dans lequel tu vis, tu dois éclairer ton mari, même s'il est difficile. Regarde des fois où quelqu'un dit, bon, il est très difficile, bon, on peut le laisser. Non, il faut l'éclairer. Nous devons éclairer nos femmes, nous devons éclairer nos amis, nous devons éclairer nos collègues, nous devons éclairer même nos subalternes, pour qu'ils se réjouissent et qu'ils constatent qu'il y a quand même une petite lumière dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Mais si nous devenons pires tout en fréquentant l'église, c'est qu'il y a un problème de fond. Il faut revisiter notre maison. Amen. Enfin, la lumière nous conduira, bien sûr, je l'ai dit en d'autres termes, à la résistance aux idéologies qui déshumanisent l'homme créé à l'image de Dieu. Ça nous conduira aussi à lutter contre toute forme d'asservissement, comme l'a fait Joseph, qui pour garder sa saveur a refusé de pécher. Même lorsqu'il a été accusé faussement, il ne s'est pas défendu. Il est allé où? Il est allé en prison. Pourquoi il a accepté d'aller en prison? Il savait qu'un juste juge, un jour il se lèvera et fera quoi? Il prononcera un verdict. Alléluia. Nous devons faire comme Jean-Baptiste, qui a osé affronter Hérode Antipas, mais malheureusement, on a coupé quoi? On a coupé sa tête. Et c'est ça qui fait que nous existons. Parce que nous avons peur de mourir. La vie, elle est bonne, n'est-ce pas? Je ne vous conduis pas à la mort, mais je voudrais seulement nous interpeller que lorsqu'on s'engage sur un autre, une voie, on doit aussi être prêt à faire quoi? À mourir. Nous devons aussi faire comme Meshach, Abednego et Shadrach, en Daniel chapitre 3, qui ont péri de leur vie. Ont affronté le règne idolâtre. Ils ont dit à Nabuchodonosor, nous n'allons pas adorer cette idole-là. Même lorsqu'il a dit qu'il va voir quel est Dieu qui a le pouvoir de les détacher de ses mains, ils ont dit, quoi qu'il en soit, nous n'allons pas adorer cette idole-là. Nous sommes prêts à tout. Que Dieu nous délivre ou que Dieu ne nous délivre pas, nous sommes prêts à tout. Il semble que c'est vers cette situation que le monde va aller lorsque le Christ viendra. Nous devons nous y préparer. On nous posera seulement une question, est-ce que Jésus est le Christ? Si tu dis oui, on te décapite. Ou si tu dis non, on fait quoi? On te laisse rentrer chez toi, tu retrouves ta femme et tes enfants et ton mari. Pas de problème, vous pouvez vous réjouir, vous allez continuer à vivre, mais vous avez perdu la foi et le royaume de Dieu. Mais en attendant que ce moment arrive, il y a des petits gestes à force qui témoignent que nous appartenons à la lumière. Que le Seigneur nous aide, parce qu'il est illuminé d'en haut, nous sommes appelés à éclairer les autres, mais aussi à résister à tout ce qui compromet la sainteté de Dieu, tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme créé à son image. Amen.